Allez, comme chaque semaine, on ouvre ce magazine des sports du lundi par l'actualité sportive sur la scène nationale et internationale. On va commencer par le football et la 22e journée de Ligue 1 qui a été riche en buts, Mickaël Dunesky.
Eh oui, pas moins de 33 buts tout au long du week-end sur les 9 rencontres programmées. Alors parmi les derniers résultats du jour, on signalera notamment ce succès de Lille sur le terrain de Rennes. 2-0 qui permet aux Lillois de reprendre la 5e place à Lyon. Pourtant, les Lyonnais avaient réalisé une belle performance auparavant sur le terrain de la Lanterne Rouge, Montpellier. Victoire de l'OL, 4-1. Nice, de son côté, remonte sur le podium après son succès aujourd'hui sur le Havre, 3-1. Strasbourg l'a emporté sur Lens, 2-0. Et puis Angers l'a emporté à Reims sur le score de 1-0. C'est la crise chez les Rémois, reconnaît Yevan Diouf, le gardien et capitaine de Reims.
Il y a tout qui va contre nous, mais peut-être qu'on ne fait pas aussi tout ce qui est en notre possible pour que ça tourne en notre faveur aussi. C'est comme ça, je pense qu'on subit un peu trop les choses aussi et il va falloir qu'on mette un sacré réveil.
Hier déjà, l'OM avait dominé Saint-Etienne 5-1 pour conforter sa deuxième position au championnat de France, juste derrière le PSG, vainqueur à Toulouse 1-0. Et surtout, Monaco qui a étrié le FC Nantes d'Antoine Comboiré 7-1. Les Nantais qui avaient pourtant ouvert le score, puis qui se sont retrouvés en infériorité numérique pour subir finalement la loi des Monégasques. Nantes encore 15e du classement, tout de même grâce au faux pas dans le même temps des autres équipes de bas de tableau, puisque Saint-Etienne est 16e, Le Havre 17e et Montpellier 18e. Je rappelle qu'en match d'ouverture, déjà Brest et Auxerre s'étaient quittés sur un nul de but partout.
Et on joue aussi évidemment dans les autres championnats européens.
On va commencer par l'Italie avec la Juventus de Turin qui l'emporte contre l'Inter Milan 1-0, la Lazio de Rome et Naples qui ont fait un match nul de but partout. En Angleterre, les Reds de Liverpool, leaders, ont battu Wolverhampton sur le score de 2-1. Tottenham l'a emporté face à Manchester United 1-0. Chelsea s'est incliné à Brighton 3-0. Ce week-end, Arsenal avait battu Leicester 2-0 et Manchester City s'était imposé sur Newcastle 4-0. En Allemagne, pas de vainqueur dans le choc en tête de la Bundesliga. Le Bayern Munich et son dauphin, le Bayer Leverkusen, ont fait match nul 0-0. Enfin, en Espagne, le Real Madrid n'a pu faire mieux qu'un nul. À Osasuna, 1-0. Pas mieux pour l'Atlético Madrid, deuxième de la Liga, tenu en échec à domicile par le Celta Vigo, 1-0 également.
L'actualité du rugby maintenant et Toulouse a repris son fauteuil de leader de top 14.
Même privé de ses internationaux, le Stade toulousain était en démonstration sur le terrain de l'AS Clermont, en clôture donc de cette 16e journée du championnat de France. Succès 35-18. Toulouse, avec dans ses rangs le Calédonien Rodrigue Néti, entré à la 50e minute de jeu, a donc mené la danse contre les Auvergnats. Pas moins de 4 essais dans la partie pour les Toulousains. Anthony Gelon, le 3e ligne des Toulousains, auteur d'un doublé dans le match.
C'est surtout prendre du plaisir, faire un gros match ici. On savait que si on faisait un gros match ici, avec la victoire ici, on prenait la tête du championnat et après on a 2 réceptions les 2 prochains mois, ça sera très dur aussi, donc on a bien commencé ce bloc des 3 derniers matchs et 3 matchs avant la trêve et il faut continuer la semaine prochaine, on sait qu'on va perdre encore du monde donc il faut s'accrocher.
Les Toulousains qui reprennent donc les devants en top 14 puisque ce week-end de l'Union Bordeaux-Bègles s'est incliné sur le terrain de Bayonne 36-32, Lyon de son côté a dominé La Rochelle 53-17, un succès des Bretons de Vannes sur le terrain du Racing 92, 30-25. Le Stade français a battu la section paloise 39-37. C'était serré. Et Perpignan et Castres se sont quittés sur un score de parité 20-20. Enfin, le RC Toulon est allé l'emporter à Montpellier 38-30.
L'actualité du basket nous emmène aux États-Unis. C'est en effet aujourd'hui le All-Star Game.
Et sur les terrains de San Francisco, le match des étoiles du championnat nord-américain. Un nouveau format cette année avec 4 sélections engagées dans un mini-tournoi sur des matchs en 40 points, avec d'ailleurs une équipe comptant des joueurs qui ne sont pas de nationalité américaine. C'est une sélection reste du monde, on pourrait dire. On y retrouvera le français Victor Wembanyama, le phénomène de 21 ans. Il a déjà annoncé pour sa première participation qu'il visait tout simplement la victoire. Le coup d'envoi des premiers matchs est imminent donc sur les terrains de San Francisco.
On passe au tennis avec Hugo Humbert qui s'est imposé en finale de l'ATP 250 de Marseille.
À 26 ans, le français l'a emporté contre le Serbe Amad Medjedovic 7-6, 6-4. Il conserve donc sa couronne dans ce tournoi marseillais et décroche au passage son 7e titre sur le circuit ATP. C'est seulement son premier depuis le début de la saison. Hugo Humbert qui annonce prendre désormais un temps de repos avant de repartir sur d'autres grands rendez-vous.
J'essaie d'être moins con que l'année dernière. Parce que c'est vrai que voilà, tu gagnes un titre et puis de se reprojeter, je trouve, tout de suite sur un autre tournoi, c'est dommage, quoi. Ça arrive pas toutes les semaines, donc j'ai envie de savourer un peu.
Hugo Humbert, numéro 1 français, qui souhaite faire l'impasse sur le tournoi de Doha pour se préparer pour le prochain tournoi de Dubaï.
Un mot de sport d'hiver avec les mondiaux de biathlon et deux nouvelles médailles de bronze pour les tricolores.
Ouais, sur l'épreuve de la poursuite, deux podiums, mais malheureusement pas d'or chez les féminines deux jours après sa victoire sur le sprint. Justine Brezaz-Boucher a terminé troisième de la course remportée par l'Allemande Franziska Preuss devant la Suédoise Elvira Oeberg. Et chez les messieurs, le Norvégien Johannes Bø a gagné l'or, alors qu'Éric Perrault, le tricolore, a fini avec une belle troisième place. Quentin Fillon-Maillet, c'est lui classé sixième.
Et enfin, du rallye en Suède, et le Gallois Elfyn Evans s'est imposé sur la deuxième manche du championnat du monde WRC.
Le pilote Toyota a remporté l'épreuve en devançant au classement son coéquipier japonais Takamoto Katsuta et le belge Thierry Neuville, champion du monde en titre sur Hyundai, troisième. Le français Adrien Fourmeau a dû abandonner ce week-end après s'être battu pour le podium. Alors au classement du championnat du monde, Elfyn Evans prend la tête devant Sébastien Ogier, le français, qui était absent ce week-end après avoir gagné, on le rappelle, la première manche à Monte Carlo.
Midi 12, une pause dans ce magazine des sports du lundi avant de voir l'actualité sportive en Calédonie avec notre invité, notamment Gilles Tavergeux, le président de la Fédération Calédonienne de Football.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Faites du sport avec la ville de Nouméa.
Rendez-vous ce samedi 22 février de 9h à 15h au stade Pentecôte et à la salle Omnisport de Lanzvata pour une journée à la découverte des pratiques sportives à Nouméa.
Individuelle, collective ou originale, il y en aura pour toutes vos envies.
Profitez de la présence des associations, ligues et comités sportifs pour vous informer, vous initier et pourquoi pas vous inscrire. Retrouvez le programme complet sur nouméa.nc et la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, pour une partie consacrée à l'actu sport en Calédonie, on va parler football pour faire le point sur l'actualité de la fédération calédonienne qui a du mal à mettre en place son nouveau championnat. On en parle avec son président, Gilles Tavergeux, en liaison téléphonique depuis le siège de la fédération à Païta, qui répond à Léo Fichou.
Gilles Tavergeux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fédération Calédonienne de Football. Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Première question, forcément, c'est dans toutes les bouches, dans toutes les têtes des joueurs de football calédonien, cette Super League, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'il en est?
Alors, bonjour à tout le monde. Moi, le souci qu'on a avec la Super League actuellement, c'est que on avait réfléchi au niveau du Conseil fédéral avec le département technique et les membres du Conseil sur... comment relancer le football en 2025 suite à tout ce qu'on a connu en 2024 et à l'arrêt total de nos compétitions. Donc, deux options se sont présentées. Une avec la reprise normale de la Super League. Mais là sur la reprise normale de la Super League, deux problèmes majeurs. Un, quid des subventions allouées par les provinces et le gouvernement au club pour pouvoir justement faire face à tout ce qui est... déplacement, hébergement, restauration des clubs lorsqu'ils se déplacent aux îles ou les îles se déplacent sur la Grande Terre. Et le deuxième problème, c'est aussi un problème de transport. C'est comment faire si demain, avec les problèmes que rencontre Aircal aujourd'hui, est-ce que demain on ne sera pas pénalisé aussi de ce côté-là? Donc voilà.
Donc ça, c'est le premier format. C'est voilà. Un format classique en championnat comme ce qui était connu avant.
Voilà, aller-retour des clubs, des 10 clubs de Super League. Voilà.
Et après, donc, il y a un second format.
Et le deuxième format, c'est celui avec le département technique qui a été proposé. C'est celui de faire d'abord un brassage de tous les clubs. Hein, un brassage au niveau, je prends le sud, le comité sud. Alors, par petite région, on ferait le Grand Nouméa avec plusieurs chapeaux jusqu'à Païta, Mondor, Dembéa et Nouméa avec les clubs là. Ensuite, de l'autre côté, la Soie, Thio, Gouraï et tout ça. Et les clubs auraient au maximum une heure de transport, de route à faire. Et après ce premier brassage, on sortirait des premiers. Et là, on ferait un deuxième tour, toujours en respectant les provinces pour toujours ces problèmes d'économie de transport, avec un deuxième championnat. Et tout en conservant aussi au niveau du premier tour, les gens continueraient à jouer à leur niveau. Donc au niveau du deuxième brassage à la province, là, du côté province, là les clubs joueraient les uns contre les autres et là on ferait aussi un mini-championnat et les premiers sortiraient pour aller sur la phase territoriale, fédérale. Et là, avec un mini-championnat, et le champion serait notre représentant en Euroleague. Et il faut savoir aussi qu'au niveau provincial, les éliminés, je veux dire, resteraient dans leur province et joueraient dans leur province. Ça éviterait aussi beaucoup de dépassements.
Voilà. Ouais. Et du coup,
et sur la dernière phase, oui, la Fédé interviendrait pour aider aussi les clubs dans les déplacements.
Et qu'est-ce qui coince? Des réunions qui ne sont pas encore faites?
On est partagé au niveau du Conseil fédéral, mais on est aussi dans l'attente des retours des clubs. On a sollicité les clubs, et aujourd'hui, je veux dire, c'est la moitié est pour la Super League et l'autre moitié est pour le deuxième format. Donc, le Conseil fédéral, on va être obligé de statuer là-dessus pour prendre la meilleure des solutions pour relancer le football.
Sur la date, peut-être, de reprise de cette compétition, habituellement?
La date de reprise, nous, on l'avait décalé du mois de mars au début avril pour que, justement, on puisse bien discuter de tout ça et pas faire les choses trop vite et après se mordre les doigts, quoi.
Donc cette Super League qui est quand même la compétition la plus prestigieuse ici en Nouvelle-Calédonie et qui pourrait lancer cette année, mais il y a aussi les autres championnats qui vont suivre derrière.
Exactement, donc il ne faut pas oublier que la Super League c'est une chose, mais les clubs aussi ont des obligations qui peut-être vont être revues à la baisse, je pense. Mais il ne faut pas oublier qu'on a les compétitions de jeunes, on a les compétitions féminines, on a tout ça à relancer. Et je veux dire, il ne faut pas se baser que sur la Super League, parce que sinon, on oublie les clubs. Et la force de notre fédération, c'est tous ces clubs qui sont là, dans les districts et aussi dans les provinces. Je veux dire, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Je veux dire, il ne faut pas oublier que, voilà, avec ce qu'on a subi le 13 mai jusqu'à aujourd'hui, les clubs, sont restés à l'arrêt. Maintenant, il faut relancer et trouver la meilleure solution pour relancer le football et partout. Je veux dire, c'est surtout ça.
Vous parliez d'accompagner les clubs dans cet accompagnement, dans cette relance des clubs de féminins, hommes, futsal, jeunes. Il y a aussi le côté financement et forcément, avec tout ce qui s'est passé en Calédonie, il y a un souci de financement puisque beaucoup de sponsors ont arrêté, beaucoup d'entreprises ont fermé.
Oui, mais donc c'est ce côté-là. Certains clubs étaient aidés par différents sponsors, donc aujourd'hui, ça va être très très difficile. Donc c'est pour ça que j'ai dit quelque part, il faut pas non plus mettre la barre trop haut, trop haute, et puis qu'après on puisse pas l'atteindre, quoi. Je veux dire, faut être réaliste. Moi, j'ai été président de club, je sais ce qu'il en est, quoi. Je veux dire, c'est pour ça que quelque part, il faut bien discuter avec les clubs et voir si on s'engage. Il faut s'engager sur l'année. C'est pas au bout de 6 mois de compétition qu'on viendra dire à la fédération, on peut plus suivre, quoi. Je veux dire, c'est ça le malheur. C'est ça qui pourrait nous faire du mal. Mais c'est la fédération a aussi voté. On a réussi à obtenir de la FIFA l'utilisation de fonds qui n'étaient pas utilisés sur d'autres actions. La FIFA nous a accordé cela, mais en nous disant, vous utiliserez ces fonds dans ce cadre-là. Et donc, pour cette année 2024, on a pu obtenir des fonds. Et ces fonds, ils vont être mis pour les clubs. Et les clubs auront un avoir à la fédération pour toutes les licences qu'ils ont établies en 2024. Pardon. Voilà. Et après, on essaiera de faire d'être équitable aussi avec les autres clubs qui n'ont pas démarré pour leur donner quand même un petit, quelque part, une petite aide.
Un petit mot sur le futsal aussi, on en parlait en off, oui. Vous disiez que c'était en bonne voie pour une relance aussi.
Alors le futsal, contrairement au foot à 11, le futsal, ils ont décidé d'aller sur la deuxième formulation, le deuxième format. Donc voilà, c'est réglé, maintenant on va essayer de voir maintenant avec la commission de mettre en place le championnat et de voir avec les comités la meilleure des façons pour pouvoir sur le terrain traduire tout cela. Donc voilà, c'est le travail du département technique avec la commission pour pouvoir utiliser. Mais bon, après, vous savez, il y a des salles qui ne pourront plus être utilisées. Donc on a aussi sollicité les communes, les collectivités pour savoir quelles salles pourraient être utilisées. Et bon, là, on va se retourner maintenant vers elles, vers ces collectivités pour essayer de faire des conventions pour qu'on puisse utiliser de la meilleure façon les salles.
Donc on l'a bien compris, il y a le futsal qui devrait repartir très prochainement, c'est un peu plus compliqué pour le foot à 11, mais, mais c'est en discussion.
C'est en discussion et puis je pense qu'on va essayer de trouver la meilleure solution pour nos clubs, il ne faut pas non plus. Et je disais, même je veux dire, dans le premier format avec le championnat Super League qui va nous donner le champion de Super League et puis qui va être notre représentant à la O-League, comme cette année c'est le cas pour Tiga, je veux dire, dans notre deuxième format, c'est pareil. Je veux dire, à la fin du championnat de fédéral qu'on aura mis en place, eh ben notre champion représentera la FCF au niveau de la Haut-Ligue Océanienne.
Eh bien, on suivra ça avec intérêt. On va suivre aussi la Ligue des Champions pour Tigas. Ce sera fin mars, début avril, je le rappelle. Merci beaucoup, Gilles Tavergeux.
Merci à vous.
Merci, vous êtes, je le rappelle, président de la Fédération Calédonienne de Football. Merci encore.
Merci à vous.
Merci bien pour ce point donc sur la reprise de la saison de football qui n'est pas encore tout à fait effective. On l'a bien compris, il y a encore des questions à trancher. On va terminer ce Mac des Sports par les principaux résultats du week-end en Calédonie. Il y avait notamment de la voile, Michael Juneski, avec le prologue du challenge Sirius Solar.
Oui, une mise en jambe en vue de ce championnat de croiseurs organisé chaque année par le CNC. 17 navires étaient engagés, des participants qui avaient hâte de retrouver les régates, comme par exemple David Tréguier, le skipper de Pulpito MLS FCD.
C'était la remise en route du bateau et de l'équipage, avec des conditions quand même un peu musclées. On a eu quand même pas mal de vent. Et pour Pulpito MLS FCD, c'était aussi le retour en Calédonie, puisqu'on est parti faire la Sydney Hobart à la fin de l'année. Donc c'était l'occasion de retrouver tout le monde, tout l'équipage habituel.
Vous êtes de nouveau engagé dans tout ce qui va se passer pour cette saison, avec des grands rendez-vous aussi en vue cette année.
Oui, toujours l'envie d'être sur le plan d'eau calédonien. Et en juin prochain, le 15 juin, on a le départ de la Groupama Race, qui est l'événement phare du monde du nautisme calédonien. Donc on se prépare pour cette nouvelle échéance, cette nouvelle étape. On reprend goût à retourner sur l'eau, à faire notre loisir, notre passion et pouvoir se battre les uns les autres avec amour.
Un prologue donc avant le début du championnat prévu le week-end du 16 mars et l'année s'annonce bien remplie pour les marins. Luc Amalige est responsable de la base nautique du CNC.
Le mot d'ordre déjà c'est du soleil, puisque ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Le deuxième mot d'ordre effectivement c'est la reprise de la saison des régates au CNC, au Cercle Nautique Calédonien. C'est cool de retourner sur l'eau, c'est cool de voir que pour la première, même si ce prologue ne compte pas dans le classement du challenge annuel, c'est juste pour une remise en jambe pour que tout le monde puisse revenir s'entraîner dans les conditions de régate du CNC. On a quand même 17 bateaux inscrits, donc c'est une belle réussite pour une première de l'année. On espère voir du coup autant de monde sur les lignes de départ tout au long de l'année, jusqu'à la Groupama Race et même après. L'idée c'est ça, pour le croiseur habitable comme pour le quillard de sport J70 ou pour les jeunes en dériveur, c'est une régate par mois, un rythme un peu soutenu qu'on essaie d'imposer. Si c'est pas une régate de croiseur dans le lagon, c'est aussi une régate offshore qui servent d'entraînement pour la Groupama Race. Groupama Race qui a lieu en juin, donc le mois de juin il n'y aura pas de petite régate dans le lagon, ce sera la Groupama Race.
Alors, côté résultat sur ce prologue donc du challenge Sirius Solar NC, l'équipage de Speed Marine Guilty Pleasure est arrivé en tête samedi au classement en temps réel et compensé, et dimanche sur les régates en double, c'est BNC Léon qui s'est imposé en temps réel comme en temps compensé.